carrefour des arts. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
On retrouve Jacques-Louis Binet, correspondant de l'Académie des Beaux-Arts.
Bonjour. Alors, nous avons la chance aujourd'hui d'avoir Pierre Buraglio pour parler d'une exposition qui malheureusement se termine à la fin du mois de septembre et qui a lieu en Bretagne, à Vannes, à propos d'un tableau de Delacroix. Ce tableau de Delacroix, Vannes l'avait depuis assez longtemps, il a été abîmé, il a été restauré. Et la bonne idée de la conservatrice, c'est d'avoir demandé à un peintre, une fois que le tableau était restauré, ce peintre est Pierre Buraglio, de venir travailler à propos de lui. Non pas de l'imiter, non pas de le représenter, mais d'essayer de voir un peu de quoi il était fait. Alors, ce travail sur les tableaux d'autrefois, moi, m'intéresse beaucoup, parce que c'est un souvenir personnel, mais je vais être rapide, c'est à cause de ça que j'ai connu Pierre Buraglio. Dans les années 80, à la fin des années 80, j'avais organisé une exposition à la chapelle de la Salpêtrière, qui malheureusement maintenant est fermée à l'art contemporain, c'est dommage, mais à ce moment-là, elle était très ouverte et allait avoir lieu tout le Festival d'automne, toute la représentation de peinture du Festival d'automne. Et ayant vu quelques toiles, mais pas beaucoup, de Pierre Buraglio, qui faisait partie d'un groupe très important qu'on appelait Support Surface, où il reprenait la trame des tableaux, il reprenait la structure des tableaux, eh bien, il montrait des toiles qui n'étaient au fond que le montant d'une fenêtre. Il n'y avait pas de vitre, il y avait la portion verticale, la portion horizontale, et ça devenait un tableau. Et j'étais venu lui demander s'il acceptait que je prenne un de ces montants, qui était presque de la peinture, on va appeler ça abstraite, mais ça ne veut pas dire grand-chose, une peinture très physique, pour devenir une croix. Et il m'a dit, très facilement, oui. Point. Ça se passait en juin, l'exposition avait lieu en novembre ou en octobre. On se revoit en octobre et en novembre, et non seulement il m'apporte une toile qui reprenait le thème qu'on avait fixé, mais en même temps, il m'apporte quatre crucifixion vraie qu'il avait redessiné lui-même pour son plaisir et aussi pour ses élèves, car il enseignait déjà la peinture. Il allait devenir quelques années plus tard professeur à l'École des Beaux-Arts. Et il est venu avec quatre crucifixions, quatre reprises de crucifixions, retravail sur, de Gréco, de Rubens, de Philippe de Champagne et de Tintoret. Alors j'étais très surpris, un peu apeuré, parce que je ne savais pas comment les accrocher à la Salpêtrière. Finalement, tout ça s'est arrangé. Mais avant de le faire parler, je voudrais, à propos de ce tableau que Delacroix a peint en 1835, je voudrais rappeler où en était Delacroix en 1835. Il avait 37 ans. Il était jeune. Il avait déjà fait un tableau sur, un peu dans le même style, une reprise du Mise au tombeau d'un Titien. Il avait déjà peint La Liberté, le tableau qu'on voit partout, La Liberté qui guide le peuple, qui était le tableau de la Révolution de 1830. Il avait déjà peint un tableau qui fut très connu, qui était La Barque de Dante. Il avait déjà peint Le Massacre de Scio. Et voyez le côté déjà politique où les Grecs s'étaient laissés assassiner. Et il avait fait un grand tableau qui était La Mort de Sardanapale. Et en 1832, il avait fait un grand voyage où il avait appris à voir, à connaître, à sentir la couleur, qui était un voyage au Maroc. De telle sorte qu'à ce moment-là, il était déjà formé, et pour le plaisir, ce n'était pas une commande religieuse, pour des raisons que je ne connais pas, il peint une crucifixion. Alors c'est le tableau qu'on va voir ensemble avec Pierre Buraglio. Ce tableau, encore une fois, il est exposé à Vannes. Il y a un catalogue qui est bien fait. Et vous pouvez le voir en septembre à Vannes, après encore à Vannes, et vous pouvez surtout retrouver le catalogue où il y a des textes de Pierre Buraglio. Alors, ce qui m'intéresse dans le travail de Pierre Buraglio, c'est ce qu'il appelle la mise à plat géométrique. Sur ce tableau restauré, on voit le Christ qui est mort, on voit à droite, c'est-à-dire à gauche du Christ, on voit un larron qui vit encore, avec simplement un pied qui a été cloué et une main qui reste très ouverte, où, semble-t-il, il doit s'exprimer. On voit collée à la croix la Vierge, totalement silencieuse, totalement immobile. Et au pied de la croix, on voit Marie-Madeleine en pleine crise de douleur, dépoitraillée. Et puis tout autour, une très grande agitation. Je caricature parce qu'il faudra regarder le tableau pour voir. Mais ce qui m'intéresse, c'est comment Pierre Buraglio l'a attaqué, si je peux dire, et qu'est-ce qu'il voit dans cette mise à blat. Il parle d'une oblique de la croix du dernier larron et de la ligne qui part de l'épée du centurion. Et il montre que ces deux lignes se croisent et se croisent sur les yeux de Marie-Madeleine. Alors parle-nous de cette mise à plat et qu'est-ce que tu y recherches ?
Effectivement, c'est une mise à plat. Mais plus généralement, si je reprends très brièvement ce que tu as dit, en utilisant l'expression « à propos », il s'agit toujours de cela lorsque j'appréhende des œuvres muséales. Hein, et je décline d'après, autour, avec, selon. Bref. Dans le cas présent, je n'ai pas choisi ce tableau. D'une certaine façon, c'est sinon une commande, une incitation. Parce que de la croix, j'ai une grande admiration, un grand respect, mais ce n'est pas tout à fait de ma famille. Tu faisais allusion tout à l'heure au Christ...
Ta famille, c'est Matisse, c'est tout à fait autre chose.
Oui, tu faisais allusion à Philippe de Champaigne, dessin que j'avais pu faire et exposer à la Salpêtrière. Dessin que j'ai fait dès 1976, la crucifixion de Philippe de Champaigne qui est à Grenoble, il y a une version à Grenoble, une version à Paris, c'est beaucoup plus ma famille, un dépouillement. Bon, bref, il y a un pathos qui m'a toujours agacé, révulsé. Mais lorsque c'est ça qui est intéressant, lorsqu'on est confronté vraiment à une grande œuvre, ça doit être la même chose pour un écrivain s'il est contraint ou amené à relire, etc. Même si on a des réticences, eh bien, des journées passées à dessiner avec soin d'après Delacroix, ben, j'ai mesuré à quel point c'était un magnifique tableau. Alors, comme tu viens de le dire, il y a...
Qu'est-ce que t'apporte la mise à plat ? Ça m'intéresse.
Alors voilà, la commande ou la citation portait sur... il s'agissait d'occuper plus...
D'analyser un tableau avec des
moyens différents.
Voilà.
Alors, la mise à plat, ben, c'est tout simplement un relevé des directions, des verticales et des obliques qui constituent géométriquement les trois croix. Il y a la croix, disons, centrale, celle du Christ, qui, comme tu viens de le dire, et au-delà, c'est après le geste de la lance, il est mort. Il y a le bon larron, entre guillemets, le bon larron, parce que bon, c'est une autre question.
Qui
s'agite. Et d'ailleurs, alors ça n'apparaît évidemment pas dans une mise à plat. C'est pour ça que je ne me suis pas non plus contenté de travaux qui portent sur la géométrie, qui portent sur la structure, mais j'ai par ailleurs fait des études au fusain très classiques et qui appréhendent les gestes. Et comme tu viens de le dire, il a la main ouverte et il est dans la demande. Et on sait dans l'évangile, je crois celui de saint Matthieu, où le Christ lui répond « Tu seras bientôt avec moi au paradis », etc. Alors on revient à nos deux grandes verticales. Là,
le troisième, il est à l'extrémité gauche.
Oui, on commence à enlever les croix. Il y a la troisième croix et on peut...
Elle est à la droite de la Vierge, c'est ça ?
Elle est complètement
à l'oblique.
Oui, elle est complètement à l'oblique. Alors la construction se ramène à deux grandes parallèles verticales, à cet oblique qui participe complètement de la grande tradition des Vénitiens, de Rubens. Et puis, il y a à l'opposé, à la droite, qui affirme le dynamisme du tableau, il y a une autre oblique, c'est cette immense échelle qui est censé être l'échelle,
c'est très important,
oui, voilà.
Et qui au fond constitue une autre verticale.
Voilà.
Mais ce qui me semble important, et ce qu'on voit bien sur le tableau, et ce qu'on devine sur ta mise à plat, c'est qu'en réalité, la croix du Christ et la croix du bon larron ne sont pas parallèles. Entre eux, il y a un espace. Il y a un espace qui refuse la perspective. Regarde. Il y a un espace, là.
Oui,
ils
ne
sont pas parallèles. Et toi, tu l'exprimes très simplement, mais très vigoureusement,
oui.
Avec tes noirs des deux croix.
Oui.
Tu vois, les deux croix, on voit qu'entre les deux, il y a quelque chose qui va très loin. Il y a un espace.
Oui.
Et ça va s'ouvrir par derrière. Et, entre parenthèses, c'est un refus de la perspective.
Il joue avec, il s'inscrit dans la...
Il s'inscrit dans le renouveau de la peinture. Oui, il en a marre de la perspective.
Puis du mouvement baroque, post-baroque, oui.
Oui, et on suit Géricault, quoi.
Oui, alors tu disais les noirs, c'est surindiqué les ombres de ces grandes verticales, parce qu'il y a des inversions et qui montrent comment...
Il y a un trou.
Il y a un trou, et quand on voit le tableau... Il est forme et fond, il y a un trou, parce qu'effectivement, il se passe quelque chose, et lui, qui est plus ou même un homme de doute, hein, peut s'interroger sur la suite de tout cela. Et puis, c'est ça qui apporte le dynamisme, aussi.
Ça. Donc, ta reconstruction, ton travail, montre beaucoup de mouvements. Premièrement, un mouvement de fond qui refuse la perspective. C'est très important, ça. Parce que des gens comme Schneider disent que la peinture moderne, elle est née du refus de la perspective. Elle démarre avec Géricault. Il faut aller voir l'exposition qui a lieu pour le moment à Clermont-Ferrand. Le radeau, il nous tombe sur la gueule. Et ce qui est très intéressant, et ce qu'on voit très très bien à Clermont-Ferrand, c'est que tout est prêt. Et alors, il fait des essais pour savoir comment il va placer son radeau et comment il va placer son bateau. Les deux premiers essais, c'est un tableau tout à fait banal. Et puis le troisième, la perspective fout le camp, à cause des nuages, à cause de la mer. Il n'y a plus de perspective. Eh bien là, je trouve qu'on retrouve un peu la même chose, tu vois, entre les deux. Et c'est ce qui était très subtilement indiqué par tes ombres noires. Entre les deux, il y a un immense espace. Voilà. Donc voilà pour la mise à plat qui est importante. Il y a aussi un travail sur la couleur. Parler de la croix sans la couleur. Et alors là, il faut que tu nous expliques un peu. Il y a le rouge et le noir. Tu dis qu'il y a le rouge et le noir. Et d'autre part, et on va en parler à propos des variations, comment tu travailles là ?
À partir d'un calque que j'ai fait, comme un relevé, tout simplement, de l'organisation. On en a fait un CD, on l'a mis dans un ordinateur et on a fait une impression numérique. Et ça, c'est toute une partie de mon travail. Et ça, je le défends. Et cette exposition, surtout si des gens la voient, ils pourront être surpris. Ils verront donc cette espèce de schématisation dont nous parlons et de simplification et ramener à deux
couleurs.
Et des fusains qui appréhendent davantage le côté émotionnel, pathétique de l'homme.
Et en même temps, la structure du tableau.
Mais oui, sans la perdre.
L'un et l'autre.
Voilà. Alors, impression numérique, je peux le citer, parce que c'est un merveilleux type, c'est la grande tradition, c'est Franck Bordas, qui est le petit-fils de Mourlot, le lithographe de Picasso. Et alors, dans son atelier, je fais passer des supports, mais des plus différents, les plus ordinaires, comme les plus précieux. Ça marche, on garde, ça ne marche pas, poubelle. Et ensuite, ça revient à l'atelier, et tu vois, il y a une réinterrogation de ce que...
Une recréation.
Et une recréation à partir,
intéressant.
Et c'est ce qui explique qu'on voit, avec 10, disons, j'en fais 4. Je découpe...
Et 4 qui sont à la fois... le premier tableau et un tableau tout à fait différent. Un mot pour l'échelle. L'échelle qui est à droite, alors c'est important parce que toi, tu es très attaché à l'échelle et je pense que beaucoup d'auditeurs ont vu à la porte de Pantin la croix Sainte-Claire que tu as créée pour l'architecte. Et ici, tu replaces l'échelle à l'autre bout. Dans la croix de Sainte-Claire, je crois qu'on ne peut pas monter au dernier échelon. Là, c'est à peine évoqué. Tu vois, le dernier échelon est plus haut. Comme si, dans ton dessin, comme si, de nouveau, c'est une échelle, mais une échelle... Regarde, tu vois.
Oui.
C'est très important, ça.
On peut dire quand même que c'est à la demande de Christian de Porzampar, qui ne voulait pas, pour l'église qu'il avait à agrandir, à rénover, si tu veux. Il ne voulait pas de clocher. Alors, il m'a proposé et j'ai fait cette croix Sainte-Claire extrêmement dépouillée, avec apposée sur cette croix de métal, apposée une échelle qui est à la fois celle de l'élévation et de la descente de croix. Et quant aux échelons auxquels tu fais allusion, il y a un côté aussi un peu pratique, hein, un peu, je dirais même, social, c'est qu'il faut éviter que les gamins grimpent sur cette échelle. Alors les échelons sont extrêmement espacés et ils se resserrent en montant. Et en même temps, il y a un discours qui est tenu,
qui montre que
les vers de Dante, plus je m'élève vers ciel, etc.
C'est à la fois pratique.
Et là, je l'ai retrouvé d'une certaine façon.
C'est très intéressant.
Oui.
Ça veut dire que tu as refait un autre tableau.
En même temps, j'insiste sur le fait que je me suis tapé des dessins très serrés qui m'ont pris beaucoup de temps par modestie envers un maître de la croix.
Bon, écoute, il nous reste malheureusement 2 minutes. Mais ce que je voudrais dire, c'est que on ne va pas parler de la religion de Delacroix et des relations de Delacroix et de la religion. Comme beaucoup de peintres, on ne sait pas s'ils étaient croyants ou pas croyants. Bon, et ils avaient les commandes de l'Église. Point. C'est tout. Le reste, on ne met pas trop ses sentiments.
On met pas trop c'est un voltairien, tout le monde le sait.
Oui, absolument. Bon. Mais voilà. Donc, il ne met pas ses sentiments. Il travaille pour l'Église. Il représente quelque chose. Point. Il n'y a rien dans le journal. Mais c'est un thème qui va reprendre très souvent. Et on parle toujours de Rubens et du coup de lance de Rubens, mais il va refaire des tableaux. 10 ans après, il refait un tableau qui s'appelle le coup de lance de Rubens, qui n'a aucun rapport avec celui-là, mais strictement aucun. Parce que là, je veux bien qu'on en parle, mais le coup de lance, il a été donné alors que le Christ est sur la croix et le Christ est mort. Et le Christ est silencieux et le Christ semble apaisé. Donc il y a un mouvement assez étonnant entre l'apaisement du Christ, le recueillement de la Vierge, l'affolement de Marie-Madeleine. Affolement.
Hystérie.
Physique et intellectuel, total. Bon, ça ne choquait pas Delacroix. Delacroix, quand il représente la République, il la représente le sein nu.
Oui.
Il ne faut pas raconter
d'histoire. Mais ça choquait beaucoup ses contemporains, et surtout Havane.
Oui, après, ça choquait l'Église. Lui, ça ne le choquait pas du tout. Et d'ailleurs, personne n'est choqué de voir la République au sein nu. Voilà. Je ne sais pas si c'est au contraire ou non, mais enfin, c'est comme ça. Bon. Et ça, c'est très intéressant parce que ça montre qu'il résonne dans un autre monde. Donc, il va faire, quelles que soient ses idées, il a toute une œuvre religieuse. Il finit quand même à Saint-Sulpice.
Ah oui,
bon,
très très belle. Le combat de Jacob et de l'ange dans la chapelle.
Bon,
c'est magnifique.
Magnifique.
Toile marouflée. Oui.
Et c'est un travail en même temps assez étonnant sur la couleur. Bon. Je crois qu'il faut en rester là pour Delacroix. La suite, on la reprendra le 14 septembre. Et j'ai la chance d'annoncer aux auditeurs que j'organise une journée du livre le 14 septembre et que les crucifixions, ou plutôt la crucifixion de Grunewald, sera reprise, comme aujourd'hui, par des peintres. Ces peintres sont, bien sûr, Pierre Buraglio, mais il y en a d'autres. Car Grunewald a été étudié par des tas de gens. Il y a Vladimir Velikovic, que vous connaissez. Il y a Adèle Abdessamed, qui monte pour le moment ses crucifixions à Colmar, à côté du Grunewald. Peut-être Sarkis. Et puis, il y a aussi Titus Carmel, qui a fait toute une série sur la crucifixion, qui est superbe. Donc, vous voyez que là, ça nous servait d'introduction. Mais ce qui m'importe surtout, c'est que dans la restauration d'un tableau, il y a la part du peintre, et ce peintre ne joue que s'il travaille comme l'a fait Pierre Buraglio et comme le font beaucoup de peintres contemporains, des restaurations, ce qu'on appelle personnelles. Ils respectent le peintre, ils ne l'imitent pas, mais ils en font quelqu'un d'autre.